Éloge du renversement et trouble dans le genre, aujourd'hui Shakespeare en poète subversif avec Anne-Marie Miller-Blaise et Jean-Michel Desprats.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h.
You ever try poems?
Can't say I have. Do you know any?
How about one that I used for my wedding vow when I was not much older than you?
Oh, right on. Mind if I hear it?
Okay, let's see if I can remember it. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely, more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometimes declines by chance, or nature's changing course undimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest. Nor shall death brag thou walkest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as men can breathe and eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee.
Beautiful.
Et c'est peu de le dire, la voix de Frances McDormand dans Nomadland de Chloé Zhao, le film multi-oscarisé à l'affiche en ce moment, et dont sa voix, le sonnet 18, sans doute l'un des plus célèbres des sonnets de Shakespeare, devenu une sorte de guest star des mariages et autres pactes amoureux, qui commence par ces vers « Vais-je te comparer à quelques jours d'été ? Tu as bien plus de charme et bien plus de douceur » et s'achève par cela, les fameux deux vers qui renversent le sonnet à la fin. « Tant que dure la vue et le souffle des hommes, ce poème vivra pour te donner la vie. » Et de sonnet, il sera question aujourd'hui avec vous, Anne-Marie Miller-Blaise et Jean-Michel Desprats, tous deux au générique des sonnets et autres poèmes de Shakespeare qui paraissent en Pléiade. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Merci.
D'où viendrait que ce sonnet-là fût tant dit, tant chanté, je parle du 18, celui qu'on vient d'entendre, et suavement chanté, je pense par exemple à David Gilmour, à Brian Ferry, à Sting, alors qu'au fond, ce sonnet-là, comme bien d'autres, parle peut-être moins d'amour que de poésie. Anne-Marie Miller-Blaise.
Je pense que c'est un poème qui est convaincant par son usage d'images poétiques, qui sont en fait finalement peut-être pas si rares que cela, des images poétiques qui nous bercent facilement et que Shakespeare en fait questionne en creux tout au long de son poème. Donc peut-être qu'il est retenu pour les mauvaises raisons, mais peut-être qu'en fin de compte, en écoutant cette lecture, je me suis dit que finalement, il était quand même retenu aussi pour de bonnes raisons. Voilà.
Qu'est-ce qui vous faisait penser ça dans ce qu'on vient d'entendre dans la voix de Frances McDormand?
Eh bien, en fait, le poème est d'abord chargé d'une valeur mélancolique, amoureuse très forte, d'un retour sur le passé, alors que d'une certaine façon, ce poème de Shakespeare, c'est un poème qui dit l'échec de la poésie, en fait. L'échec de la poésie, de ses métaphores, mais enfin plutôt l'échec de la métaphore, mais la réussite du poème quand même, qui arrive à dépasser cet échec de la métaphore. Et j'ai trouvé qu'au début, cette lecture était en quelque sorte peut-être un petit peu fausse, mais finalement, dans la lecture du distique final, elle se renversait, elle devenait vraie parce que il y avait un retour à la vie. Le sonnet est projeté en avant par ces deux derniers vers. Alors, il projette ce personnage apparemment dans une nouvelle vie, dans ce film que je n'ai pas encore vu. Mais après peut-être un échec amoureux, je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire. Et donc, d'une certaine façon, c'est une lecture juste, puisque le poème dit les échecs des métaphores qui ne peuvent pas rendre compte de la beauté de l'être aimé, mais quand même de l'éternité de la poésie qui sera de voilà qui sera toujours là pour être un lieu de mémoire malgré cet échec de cet échec de la langue et de ses images.
Ce poème vivra pour te donner la vie.
Voilà.
Exactement. Ce qu'il dit. Alors on reviendra sur sa lecture française bien sûr, mais peut-être un mot sur la place de ces sonnets dans la culture anglo-saxonne aujourd'hui, hein, puisqu'on évoquait ce film à l'instant. Ces sonnets qui, dites-vous Anne-Marie Miller-Blaise, eut un destin d'orphelin vagabond. Que sont-ils devenus avec le temps et que sont-ils aujourd'hui dans la culture anglo-saxonne?
Alors, ils ont effectivement eu un destin vagabond parce qu'ils ont mis beaucoup de temps à être lus de façon régulière par le lectorat anglais. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle qu'on les retrouve vraiment. Ils ont eu une longue période d'absence, peut-être en raison d'une histoire éditoriale un petit peu étonnante, un peu floue, un peu mystérieuse, et aussi peut-être en raison d'un changement de sensibilité à un moment donné où l'Angleterre s'orientait tout doucement vers des conflits politiques et religieux qui faisaient et des changements de goût poétique qui faisaient que les sonnets de Shakespeare n'étaient pas tout à fait adapté peut-être à cette sensibilité-là. Et puis ils ressurgissent sous des formes traficotées, si j'ose dire, trafiquées du moins, par d'autres éditeurs, un autre éditeur plus tard dans le XVIIe siècle. Il faut attendre les romantiques pour qu'ils ressuscitent vraiment. Mais ce retour à la vie des sonnets s'accompagne d'une lecture assez autobiographique, assez intimiste, qui n'est peut-être pas celle qui a motivé Shakespeare au départ. Et ils sont souvent détachés de leur contexte, parce qu'effectivement, ils ont une force, chacun a sa force, chacun a sa puissance, cette puissance qui est véhiculée notamment par le retournement extrêmement fort de distique final dans ces sonnets, qui les clôt, qui leur donne toute leur unité à chacun. Et ils sont souvent anthologisés, séparés, et chaque époque a ses sonnets préférés. Et c'est vrai qu'ils sont des lieux de mémoire que les gens récitent au gré de leur vie, peut-être, et auxquels voilà, un public s'identifie.
Est-ce que vous savez quels seraient les sonnets que préfère la nôtre d'époque?
Alors, les sonnets que la nôtre préfère, je ne suis pas sûre de savoir, mais c'est vrai que le 18 reste quand même... vraiment un sonnet qui marque la musicalité même de la langue anglaise, si j'ose dire.
Alors si ces sonnets ont eu une réception donc un peu vagabonde ou chaotique, comme vous le dites, en France aussi il a fallu attendre, ça a été tardif aussi, hein, en France il a fallu attendre 1857 pour qu'il soit traduit intégralement par François-Victor Hugo. Qu'est-ce que ça nous dit de notre lecture à nous, que ça a été publié à ce moment-là, qu'on ait eu besoin de les avoir en français à ce moment-là de l'histoire de la littérature française?
C'est une histoire des sensibilités qui n'est pas si différente de l'histoire anglo-saxonne, en fait, finalement. Ce sont vraiment les romantiques qui ont remis les sonnets de Shakespeare au goût du jour, que ce soit en Allemagne, en Angleterre ou en France. Et donc François-Victor Hugo qui les traduit au nom d'une bataille littéraire, qui est de contrer peut-être une sensibilité plus classique ou classicisante. Et c'est vrai que les sonnets de Shakespeare, comme son théâtre, c'est la bataille contre le classicisme en quelque sorte. Donc et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il a choisi de les traduire non pas en vers mais en prose, cette idée que la prose finalement respecterait davantage une sorte de musicalité naturelle que veut célébrer la littérature romantique.
Question peut-être au traducteur aussi, Jean-Michel Desprats, justement, comment est-ce que vous voyez cette première traduction intégrale hein, des sonnets de Shakespeare? Qu'est-ce que vous y voyez? Qu'est-ce que vous y lisez?
Je vois surtout que même encore aujourd'hui, c'est Shakespeare, dramaturge, qui enflamme les foules, le public, et que les sonnets restent quand même un texte plus élitiste, moins lu, moins apprécié peut-être que les grandes pièces.
Pourtant infiniment traduit.
Pardon ?
Pourtant infiniment traduit, les sonnets.
Oui, mais pas depuis longtemps. Au 19e, au 20e, pas avant. Et en effet, il y a un mouvement qui s'accélère. Je crois que leur modernité est de plus en plus ressentie. Il y a plus de traductions dans cette deuxième moitié, enfin ce début du XXIe siècle, deuxième moitié du XXe, que précédemment. Donc c'est presque un phénomène récent.
Alors on va y revenir évidemment à la question de la traduction et de la difficile traduction de ces sonnets. De ces sonnets, il y en a donc 154, parus en 1609, c'est vrai qu'on a oublié de le préciser, donc dans une relative discrétion. Quand Shakespeare les met sur sa table de travail, donc à la fin du XVIe siècle, le sonnet est une forme avec laquelle il joue déjà un petit peu dans son théâtre. Qu'est-ce que le sonnet incarne à cette époque-là ? Parce qu'on le voit plutôt dans son théâtre comme une forme qui permet de moquer peut-être même plus le poète que la poésie.
C'est une forme qui s'est considérablement banalisée, en quelque sorte. Elle s'est banalisée parce qu'elle a été une forme importante partout en Europe pour construire une poésie en langue vernaculaire, en langue vulgaire. C'est un outil, un instrument poétique extrêmement puissant que de très nombreux poètes, à travers l'Europe ont utilisé. Mais c'est un art, l'art du sonnet, qui s'est un petit peu fossilisé aussi dans son imitation parfois très servile de Pétrarque ou de l'idée qu'on se faisait du pétrarchisme. Et effectivement,
du poète florentin.
Voilà. Et donc effectivement, sur la scène, Shakespeare, avant de publier ses propres sonnets, se moque beaucoup du sonnet. Effectivement, c'est une sorte de piège qui permet de dénoncer les travers du poète ou du pseudo-poète. Évidemment, il le fait avec un art incroyable, parce que même ces pseudo-sonnets sont dans Peine d'amour perdu sont admirables, en fait, d'ingéniosité poétique.
C'est quoi le piège du poney? Du sonnet. Le piège du poney, c'est intéressant. Le piège du sonnet, justement.
Le piège du sonnet, c'est le piège de l'amour, en fait, mais d'une certaine vision de l'amour et de cet amour qui est un amour qui rend servile, qui rend victime. Je pense que Shakespeare cherche à se détacher, en fait, de cette modalité-là de l'amour, de ce discours-là amoureux. Pour s'en détacher, c'est tout un processus et il faut effectivement jouer et faire changer les lignes force du sonnet pour y parvenir.
Pourquoi le choisir alors, finalement, alors qu'il semble s'en méfier tellement, ou en tout cas le railler?
Alors il s'en méfie, mais c'est en même temps la forme qui va permettre de se poser en tant qu'auteur, en fait. C'est-à-dire que tous les grands poètes de l'époque, de sa génération et de la génération qui le précède, ont écrit des sonnets et se font un nom d'auteur grâce aux sonnets. C'est important de pouvoir se positionner, de s'inscrire dans une histoire de la poésie et de se mesurer au plus grand. D'ailleurs, c'est aussi pour cela, sans doute, que Shakespeare est traduit par des poètes et qu'il est un poète de poètes. C'est que les poètes se mesurent à lui et se découvrent poète en le traduisant, en le réécrivant, en fait. Shakespeare était dans cette démarche-là aussi, en fait, hein, d'une culture de l'imitation, imiter d'autres poètes, mais pour les subvertir et... pour faire renaître le sonnet de ses propres cendres, tel un phénix.
Oui, mais il n'est pas simplement objet de dérision, il est sacralisé également. Dans Roméo et Juliette, deux premiers prologues sont des sonnets, et surtout, la rencontre amoureuse entre Roméo et Juliette se fait en sonnet. Chacune des répliques alternées de Roméo et de Juliette constitue un sonnet, qui est à la fois une prière. Donc il y a presque une sacralisation religieuse du sonnet et de la prière.
C'est peut-être ça aussi son piège, en fait, c'est cette sacralité.
Dit autrement, peut-être la question s'adresse davantage au traducteur. Est-ce que c'est vous vous posez la question de toute façon, est-ce que c'est le même Shakespeare qui écrit Hamlet et qui écrit les sonnets?
Indéniablement, c'est le même Shakespeare. Il n'y a pas de caractéristiques spécifiques des sonnets qui d'ailleurs sont écrits à la même époque. La date de parution 1609 est très tardive puisqu'il y a des affinités, des parallèles évidents entre Peine d'amour perdu et les sonnets, par exemple autour de la femme méditerranéenne, hein, qui représente le danger, la perdition. La deuxième partie des sonnets est consacrée à une femme black lady, qui est à la fois brune qui a le teint mat et qui représente une forme, de damnation, de perdition. Donc on a exactement les mêmes thèmes et les mêmes images dans Peine d'amour perdu et dans un certain nombre de sonnets qui sont adressés, donc dans la deuxième partie.
À une femme. Sans remettre à la poésie, alors si on vous suit bien, c'était d'une certaine façon un petit peu organiser sa postérité, en tout cas pour Shakespeare. Est-ce que vous avez une idée de l'image qu'il entendait façonner, Shakespeare, lui qui n'était pas tellement identifié comme poète. Alors même si, il faut signaler aussi que dans le volume de la Pléiade, vous avez associé les sonnets aux autres poèmes de Shakespeare. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, notamment le viol de Lucrèce. Mais il n'était pas identifié forcément comme poète.
C'est un petit peu compliqué en fait comme typologie, poète ou dramaturge, puisque les dramaturges étaient poètes en fait, ils se disaient poètes en fait, et le théâtre n'est qu'une sous-catégorie de la poésie vraiment à l'époque. Mais c'est vrai que le sonnet, c'est de la poésie lyrique, mais même cette catégorie-là est encore assez floue. Et donc, qu'est-ce que Shakespeare a voulu faire en écrivant des sonnets? C'est sans doute se donner l'autorité d'un poète, de quelqu'un qui publie, puisque le théâtre est sont souvent des textes qui sont publiés après coup, après les représentations, lorsqu'une pièce a bien marché et qu'on veut tirer un autre bénéfice d'un texte qui pourrait être rejoué encore ou qui pourrait être relu par des spectateurs qui ont apprécié une pièce qu'ils ont vue. Donc, c'est une autre stratégie, c'est une vraie stratégie éditoriale normalement que de se publier en tant que poète ou de se faire publier. C'est ça la différence peut-être, des stratégies différentes de définition de soi-même comme poète, comme dramaturge.
Il y a une hiérarchie à l'époque de Shakespeare pour les contemporains. La poésie, c'est le genre littéraire suprême. Le théâtre, étant donné qu'il est populaire et qu'il dépend du goût d'un public, du peuple, pas simplement du peuple, puisqu'on sait que les aristocrates assistaient aussi aux représentations, mais le théâtre est plus voué à une certaine fugacité, puisque indéniablement d'ailleurs Shakespeare cherche à satisfaire le goût du public. On le voit changer en fonction de l'évolution de ce goût. Donc il y a quand même une hiérarchie. L'auteur dramatique est littérairement moins prestigieux que le poète.
Est-ce que vous voulez bien nous en lire un pour qu'on entende déjà cette forme, alors sans être trop technique, mais il faudrait aussi décrire ce que c'est au fond comme convention que le sonnet. Mais peut-être on va vous écouter lire le sonnet 144, si vous voulez bien, alors en anglais d'abord, puis dans la traduction
avec
de Jean-Michel Desbrun.
Avec plaisir. Two loves I have, of comfort and despair, which like two spirits do suggest me still. The better angel is a man right fair, the worser spirit, a woman colored ill. To win me soon to hell, my female evil tempteth my better angel from my side, and would corrupt my saint to be a devil, wooing his purity with her foul pride. And whether that my angel be turned fiend, suspect I may, yet not directly tell, but being both from me, both to each friend, I guess one angel in another's hell. Yet this shall I ne'er know, but live in doubt, till my bad angel fire my good one out.
J'ai deux amours. L'un m'apaise, l'autre m'afflige. Tels deux esprits, ils me sollicitent sans cesse. Le bon ange est un homme, un bel homme au teint clair. Le mauvais ange, une femme couleur du mal. Pour me dépêcher en enfer, mon démon féminin incite mon bel ange à s'écarter de moi, veut corrompre mon sein afin d'en faire un diable, flattant sa pureté de ses charmes pervers. Mon ange serait-il transformé en démon? Je peux le soupçonner sans pouvoir le montrer. Mais tous deux loin de moi, et tous les deux amis, je suppose qu'un ange est dans l'enfer de l'autre. Jamais je ne saurai, mais vivrai dans le doute jusqu'à ce que le mauvais ait enflammé le bon.
Merci infiniment. Alors un sonnet qui dégoupille au fond, hein, ce que vous appelez Anne-Marie Miller-Blaise, les transgressions morales et esthétiques à l'œuvre chez Shakespeare. Donc là, on a vraiment les deux. Morale, sexuelle, on les entend et on y reviendra. Mais peut-être d'abord une question sur la façon dont Shakespeare, pour reprendre vos termes, fait trembler le sonnet de l'intérieur.
Alors, le sonnet est une forme qui tremble en quelque sorte de l'intérieur.
Une forme instable. Déjà.
Qui est une forme instable et qui se construit autour d'une instabilité. Traditionnellement, dans le sonnet italien pétrarchiste ou pétrarquien, plutôt dans le sonnet pétrarquien, c'est-à-dire qui découle de Pétrarque ou qui imite Pétrarque, on a un déséquilibre entre les 8 premiers vers et les 6 derniers. Et ce déséquilibre est très structurant pour l'expression de la mélancolie qui est associée à l'amour non réciproque notamment. Ce discours-là va, comme je l'ai dit, se fossiliser un petit peu en un discours de servilité dont on retrouve quelques traces ici, mais il prend une autre forme morale en fait ici, cette servilité qui est apparemment surtout sexuelle en fait. Voilà, il déstabilise la forme ou il la fait trembler davantage parce qu'il garde un petit peu la trace de ce premier déséquilibre originel du sonnet à la Pétrarque, mais il va en ajouter un autre. Ce n'est pas le seul à le faire en Angleterre. Ce mouvement de retournement qui est propre au sonnet va se déplacer progressivement au fur et à mesure qu'on traduit, qu'on imite les sonnets pour donner une forme propre à l'Angleterre, une forme qui est exacerbée par Shakespeare et qui instaure un retournement beaucoup plus fort dans le distique final. Voilà, donc ce retournement, cette subversion structurelle plaît à Shakespeare, qui est quelqu'un de fondamentalement subversif.
Qu'est-ce que ça lui permet justement, alors on en a déjà parlé tout à l'heure pour le sonnet 18, mais pour celui-ci, donc le distique final, hein, jamais je ne saurais mais vivrai dans le doute jusqu'à ce que le mauvais ait enflammé le bon. Qu'est-ce que ces deux vers-là lui permettent, ce retournement-là lui permet de faire dire, alors pas seulement pour ce qui est du sujet, mais pour ce qui est du poème lui-même.
Je ne sais pas si je saurais tout à fait répondre à la question.
Qu'est-ce que ça lui permet en fait, en termes d'écriture poétique, que ce retournement, qu'est-ce que ça dit de la façon dont il envisage le sonnet et le poème, que ces deux derniers vers qui retourne, comme vous dites.
Oui, bah, c'est un art un petit peu révolutionnaire, d'une certaine façon. Et il retourne pour défaire des constructions et pour nous faire suivre le mouvement de la pensée. Je crois que c'est ça qui est important. C'est qu'au lieu que le sonnet soit quelque chose de figé, il crée une structure qui est extrêmement vivante et qui nous surprend à chaque instant. Donc c'est ça aussi le jeu, c'est réussir à nous surprendre. Donc on voit bien que même dans les termes d'articulation logique, on a des but qui interviennent ou des yet, hein, des connecteurs logiques qui renversent les choses. Et en fait, ce n'est pas une surprise qui nous fait subir, mais plusieurs surprises pour déstabiliser toujours mieux son lecteur et puis pour montrer en fait aussi, pour faire montre quand même de son ingéniosité extraordinaire.
Qu'est-ce qui en
peut-être
fait
peut-être qu'on peut dire quand même de façon très élémentaire,
oui,
qu'il y a une petite polysémie qui n'est pas évidente. Les notes d'Anne-Marie sont très précieuses parce que souvent, la traduction est défaillante au sens où elle ne peut pas rendre deux sens. Là, j'ai presque envie de dire, on pouvait presque rendre deux sens, puisqu'enflammé doit être évidemment entendu au sens où le passionné, mais aussi au sens sexuel. Et transmis une corruption sexuelle.
Oui, on pense qu'il y aurait même une référence peut-être aux maladies vénériennes. Fait d'enflammer le bon ange de l'autre.
Infecté.
Ça pourrait vouloir dire infecté. Et puis, il faut aussi préciser, puisqu'on est dans la polysémie sexuelle notamment, que l'enfer ou hell était un terme utilisé pour désigner le sexe féminin.
Oui, alors ça, il y en a beaucoup tout le temps, au point que j'imagine même que quand on est, alors lecteur c'est une chose, mais traducteur encore plus, on doit suspecter presque chaque vers de dire autre chose que ce qu'il dit.
On est déjà confronté à une polysémie évidente. Peut-être après, quand on a fini le parcours, on peut se dire j'ai raté quelques sens supplémentaires. Mais une des difficultés, c'est évidemment qu'on sera toujours dans la défaillance, puisque un critique du 18e disait à propos de Shakespeare que c'était sa fatale Cléopâtre, ce goût immodéré des jeux de mots, de la polysémie.
Vous, vous parlez de ces sonnets de Shakespeare comme d'une anomalie littéraire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Anne-Marie Miller-Blaise ?
Eh bien, il n'y en a pas d'autres comme les siens, en fait, vraiment. Et l'une des anomalies, peut-être, tient justement à cette polysémie outrée, en fait. Mais c'est une anomalie, pardon, je n'arrive pas à redire le terme, qui tient aussi à l'esprit dans lequel il écrit ses sonnets. Il donne au sonnet un tour presque héroïque, j'entends au sens de la poésie héroïque, de l'épopée, parce qu'en fait, sa façon d'aligner les sonnets les uns après les autres, donc on a parlé du fait que certains sonnets étaient souvent détachés de la collection pour en faire des moments ou des lieux de mémoire, hein, quand on les redit dans la vie de quelqu'un, etc. Mais il y a aussi un effet cumulatif de l'ensemble de ces sonnets, qui sont inspirés d'ailleurs des métamorphoses d'Ovide et de cette forme-là poétique, donc un côté qui roule, qui nous emporte. Donc il y a un équilibre incroyable que l'on trouve chez lui, qu'on ne trouve pas dans d'autres recueils de sonnets, entre l'unité très forte de chacun des sonnets et ce jeu constant sur le détail, sur la polysémie, et cette impression de souffle épique quasiment qui nous emporte en fait d'un poème à un autre. Et ça, c'est vraiment propre à Shakespeare.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farine.
Toujours avec Anne-Marie Miller-Blaise et Jean-Michel Desprats, et toujours avec Shakespeare, et on écoute tout de suite le sonnet 20 dans la voix cette fois, et la musique de Rufus Wainwright.
Me if they defeat.
Alors, c'est clairement une toute autre cadence et toute autre lecture, parce qu'il y a des coupes hein, dans les vers, dans sa façon qu'il a de les chanter. Un extrait de l'album Take All My Loves de Rufus Wainwright, paru sous le label Deutsche Grammophon, c'était en 2016. Et ce sonnet-là, c'est le sonnet 20, qui est un sonnet qui vous importe beaucoup, Jean-Michel Desprats. On va y revenir. Est-ce que vous voulez bien nous le lire en français ? Dans votre traduction, bien sûr.
La nature t'a peint un visage de femme, toi, maître, maîtresse de ma passion. D'une femme, tu as le cœur tendre, mais sans l'habituelle inconstance et fausseté des femmes. Tu as un œil plus brillant, moins porté aux œillades, qui dort tout objet sur lequel il se pose. Tu as la grâce d'un homme, et tu as toutes les grâces, charmant les yeux des hommes, subjuguant l'âme des femmes. Tu fus d'abord créée pour être femme, mais la nature, en te formant, s'éprit de toi et me priva de toi par un petit ajout, à quelque chose en plus, à mes fins sans objet. Mais puisqu'elle t'a membré pour le plaisir des femmes, qu'à moi soit ton amour, à elle sa jouissance.
Merci.
Oh, c'est évidemment un sonnet important du point de vue structurel, puisque 126 sonnets sont adressés à un homme, même si une partie de la critique aujourd'hui pense que c'est peut-être à plusieurs hommes, mais adressé à un homme. Et les 26 sonnets qui suivent, les 26 sonnets qui suivent, pas les deux derniers qui sont un petit peu à part, sont adressés à une femme. Et on retombe indirectement sur le sonnet 144 qui est très programmatique, puisque il nous dit que l'amour d'un homme le rend heureux, l'apaise, et l'amour d'une femme, de cette femme-là, le précipite en enfer, et la damnation de la sensualité. Alors, Anne-Marie, je pense, va aller au-delà de cette première évidence, qui est autour du thème de l'androgynie, le fait que, la nature a créé un visage de femme à cet homme qu'il aime, mais en même temps l'a doté d'un quelque chose en plus, elle semble exclure l'homosexualité au sens physique, hein, puisque le poème dit que la jouissance est réservée aux femmes et pas aux hommes. Mais en fait, il est beaucoup plus complexe que ce que je viens de dire, et Anne-Marie va compléter cette
explicité. Compliqué
peut-être. En tous les cas, c'était peut-être ça aussi l'anomalie à laquelle vous faisiez allusion,
oui.
C'est-à-dire ce petit ajout d'un petit membre, un petit quelque chose en plus. Alors, plusieurs choses à savoir. À nouveau, il y a des jeux de mots incroyables dans ce sonnet qui lui permettent de dire plusieurs choses en même temps ou semblent vouloir dire deux choses contraires en même temps. D'abord, le terme de nothing qui apparaît à la fin du vers 12 et qui pourrait aussi se dire no thing par opposition à one thing plutôt. Et ce sont évidemment, là encore, des allusions possibles au sexe, tantôt masculin, tantôt féminin, etc. Nothing est un terme qui est aussi utilisé pour désigner le sexe féminin. Par opposition à la one thing que la nature a ajouté à ce corps qui était un corps presque de femme, ou du moins qui avait un visage de femme, et qui s'est trouvé doté d'une petite chose en plus. Si le poème semble s'adresser surtout à l'esprit du beau jeune homme, comme objet d'amour, l'orthographe même de l'époque permet à ce vers, dans son édition d'origine, de vouloir dire, au dernier vers du texte, de vouloir dire deux choses à la fois. « And thy loves use their treasure » peut être lu « thy loves » comme un substantif. Et donc ça sépare, dans ce cas-là, le vers sépare clairement l'amour charnel de l'amour plus platonique. Mais on peut aussi comprendre le « loves », en fait, « thy loves », puisqu'il n'y a pas d'apostrophe dans le texte d'origine. Donc on peut comprendre « loves » ici comme le sujet du verbe « use », mais un sujet pluriel, et tes amours usent de ton trésor. Et donc ces amours-là pourraient inclure aussi bien des hommes que des femmes. Donc c'est un texte qui est lui-même extrêmement ambigu sur la nature même de la relation à laquelle il semble faire allusion.
Donc finalement, quand on parle de trouble dans le genre, on peut l'entendre de mille façons, c'est-à-dire jusque dans l'écriture elle-même. Jusque dans le poème lui-même.
Et puis le sonnet lui-même est un genre au sens littéraire troublé par Shakespeare, en fait. Donc effectivement, il y a un jeu constant sur le genre au double sens du terme genre et gender en anglais, en fait. Hein. Mais effectivement, le trouble dans le genre, mais ce qui est particulièrement intéressant dans ce poème, c'est que ce trouble dans le genre en passe par une sorte d'émulation, d'admiration réciproque aussi, et de jalousie entre la nature, qui est présentée comme une femme, et le poète, en fait. Et ça me semble très intéressant de voir que le trouble dans le genre résulte de cette compétition, en quelque sorte, entre le poète et la nature.
Donc en fait, on va avoir, si on lit l'ensemble, et en fait vous avez raison, il faut vraiment le lire, il faut les lire dans leur ensemble, les sonnets, parce que vraiment l'un amène à l'autre, qui amène à l'autre, qui amène à l'autre, et donc il faut vraiment les lire, il faut les lire vraiment dans leur fluidité. Donc toutes ces combinaisons, c'est-à-dire on a la combinaison homme-homme, homme-femme, et puis aussi homme-femme-homme. C'est peut-être là qu'elle est la subversion à proprement parler, en tout cas une des subversions que vous évoquez, c'est-à-dire dans toutes ces permutations ou ces recherches de...
Tout à fait, dans la relation triangulaire notamment, dans cet aspect que décrivait Jean-Michel tout à l'heure. Shakespeare n'est pas le seul à avoir dédié des sonnets à un homme. Mais effectivement, il le fait d'une façon où même le jeune homme qui est idéalisé est à d'autres moments teinté de toutes sortes de défauts. Donc c'est ça aussi qui est subversif, en fait. C'est l'amour qu'il attache à des objets d'amour qui sont tout à fait imparfaits. Et cette reconfiguration continuelle du désir qui ne s'arrête jamais. Mais c'est cette reconfiguration continuelle, cette libido aux formes mouvantes qui donne toute la force et l'énergie aussi à l'ensemble des sonnets.
On pourrait presque parler d'une libido de la langue.
Oui, une libido poétique, en fait. Tout à fait.
C'est comme ça que vous l'avez envisagé dans la traduction, Jean-Michel Desprats, traduire une libido poétique.
Traduire, c'est à la fois un plaisir et une souffrance. C'est le plaisir de jouer avec les sonorités de sa propre langue. Et incidemment, j'ai choisi cette option-là plutôt que celle des rimes ou de la reproduction de la structure des rimes qui me paraissait un piège, parce que on choisit le mot en fonction de sa prosodie ou du fait qu'il rime avec tel autre, et chaque fois c'est une petite dérive du point de vue du sens. Alors, comme j'ai travaillé en intime, en étroite relation avec Anne-Marie, elle m'a surtout communiqué l'idée qu'un sonnet, c'est de la pensée d'abord. Et que donc, l'important, c'est d'essayer de tracer cette pensée et de la suivre le plus près possible sans céder au vertige, à la sacralisation de la forme. Et en particulier, le piège, c'est la rime, pour moi. Hein. D'autres traducteurs, évidemment, auraient un credo tout à fait inverse. Mais il me semble que la rime est un piège parce qu'elle entraîne une dérive du sens à peu près systématique, puisqu'on choisit les mots non pas en fonction de leur justesse, mais en fonction du fait qu'ils riment avec tel autre. Et ça caractérise la voie que j'ai suivie en me posant la question au départ, est-ce que je vais traduire les sonnets de façon différente de la façon dont j'ai traduit les pièces? Et la réponse est à la fois oui et non. Non, puisque bien sûr, il faut quand même tenir compte d'une structure, d'une forme. À mon sens, les traducteurs qui donnent la traduction en prose narrative, font la moitié du chemin, puisque ce qui les singularise, c'est quand même une structure poétique. Mais en revanche, oui, c'est de même nature que la traduction pour le théâtre. Je les envisage, moi, comme des poèmes à dire, autant que des poèmes à lire. Et donc, je suis tout autant soucieux que pour une traduction de théâtre, de la rythmique, du fait de les entendre et donc de porter l'attention majeure à tout ce qui est le jeu des sonorités, les assonances, les allitérations, les rimes intérieures qui, en tant que structure, remplacent pour moi la rime que je n'ai pas choisi de suivre.
Alors peut-être, on va vous entendre peut-être en lire un, donc cette fois simplement en français, dans la traduction française, pour qu'on, justement, qu'on puisse bien entendre le travail de la traduction. Je pense au sonnet 135, si vous voulez bien.
Très volontiers. Je dirais quand même deux mots sur ce sonnet, c'est que il fait partie des plus intraduisibles, puisqu'il y a en anglais un jeu absolument virtuose de rebond du mot will, qui a plusieurs sens, le prénom bien sûr, William Shakespeare, Will, le prénom du poète rival, mais aussi tout un tas de sens qui ne sont peut-être pas explicites à la première lecture, mais qui le deviennent lorsque on se rend compte. Ce qui, par parenthèse, c'est une petite pique, mais vous me la permettrez, n'est pas toujours clair dans beaucoup de traductions, lorsqu'on se rend compte qu'il y a une trame narrative toute simple, c'est un sonnet très coquin, qui dit tout simplement « Pourquoi est-ce que tu te refuses à moi alors que tu te donnes à tous les autres ?» Alors la difficulté, c'est évidemment qu'il n'y a aucun rebond possible en français de « will », puisque je n'ai peut-être pas dit assez clairement, le will qui est répété vers après vers prend des sens, des dénotations différentes, puisqu'il va très vite signifier le sexe masculin, le sexe féminin, le désir. Il n'y a qu'un sens qui d'habitude est activé par Shakespeare, le will qui ne l'est pas là, c'est le sens de testament. Mais tous les autres, y compris donc l'usage de l'auxiliaire, de will comme auxiliaire, est présent dans le poème. Alors, l'option qui est prise souvent, c'est de prendre un mot, mettons désir, et de le faire rebondir. Mais, à mon avis, ça ne permet absolument pas de rendre compte de la polysémie. Et donc, j'ai cherché pour ma part des équivalents phoniques de will, de manière à ce qu'il y ait ce rebond. Et tout à fait refusé de traduire explicitement les wills sexuels. Mais en revanche, la phrase laisse deviner. Et alors, il y a une petite trouvaille, je m'excuse, pour moi c'était un pas en avant, mais c'est une chose sans doute insignifiante, c'est que je me suis dit, le seul vocable qui en français fasse écho à will, c'est oui. Et une femme qui dit oui, eh ben, tout le monde comprend ce qui est en jeu, le consentement.
Vous avez mis du temps à le trouver,
Oui.
Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on le trouve, hein,
On a un petit moment d'euphorie. Mais rassurez-vous, c'est largement compensé par les heures de mal de crâne et de labeur et de recherche systématique et pas toujours couronnée de succès.
Alors, est-ce que vous voulez bien nous le lire, du coup, en français?
Chacune a son chacun. Et toi, tu as ton will. Un autre will, en plus. Un autre vite, encore. Je te suffis pourtant, te harcelant sans trêve, comblant ta douce fleur de ma pointe d'amour. Voudras-tu bien, dans ton vaste et spacieux pertuis, me permettre une fois de vivre et me cacher? Quand les autres y ont droit, jouissant de ton oui, il n'y a pour moi aucun espoir, aucun accès. La mer qui est toute haut reçoit encore la pluie, elle l'ajoute en abondance à ses réserves. Ainsi toi, riche en désir, accepte-moi en toi. Dis-moi oui en ta fleur pour l'élargir encore. Ne te refuse à aucun assaillant sincère. Eux tous, ils ne font qu'un, et je serai ce Will.
Merci. L'un de vos prédécesseurs, je crois que c'est Jean-Pierre Macarlo, qui priait simplement, qui se débrouillait en disant simplement que le lecteur, en lisant, devait, le lecteur, ce qui veut dire le traducteur finalement aussi, devait avoir l'esprit le plus mal tourné possible. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête?
Je ne veux pas souligner avec trop d'insistance le caractère, alors pour le coup, plus que sexuel, quasiment obscène, du vers 10 que l'on a lu. On laissera le lecteur reprendre son recueil et
Alors le volume s'ouvre sur une longue liste de traducteurs des sonnets en français de 1821-2018 et s'achève encore d'ailleurs sur une très très précieuse anthologie de ces traductions. Peu de recueils anglais ont été autant traduits, alors je pense que c'est aussi une question de droit hein, maintenant, mais ces sonnets ont été infiniment traduits, donc de François-Victor Hugo, on en a parlé tout à l'heure. Le premier, qu'il est traduit intégralement, mais figure là aussi Chateaubriand, bon, Pierre-Jean Jouve, évidemment, Henri Thomas, Armel Guerne, René Char, un petit peu, Bernard Hoepfner, Henri Méchonique, Pierre Léris, Yves Bonnefoy, qui a écrit un fameux essai à ce sujet, William Cliff, Frédéric Boyer, Joël Lilion, plus récemment, Jacques Darras aussi. Alors, c'est pas une question qui s'adresse à vous deux, mais qu'est-ce qu'il faut déduire de cette extraordinaire fortune, il faut le dire? Est-ce que ça tient au poème, ça tient à Shakespeare, au canon Shakespeare, à la résistance de ces sonnets, ou effectivement, comme vous le suggériez tout à l'heure, à ce côté poème à poète, hein, c'est-à-dire une façon de travailler sa propre écriture?
C'est tout ce que vous avez dit, mais en tout cas, le dernier élément est probablement l'essentiel, c'est-à-dire que, étant donné leurs difficultés, l'efflorescence de la polysémie constante, est bien évident que c'est une tâche vouée à l'échec. Donc, même les réussites les plus prestigieuses, malgré les difficultés, ne peuvent jamais satisfaire complètement le traducteur potentiel qui a envie de se confronter, ou en tout cas de proposer une autre version. Ben, c'est un peu la caractéristique de tous les classiques, les chefs-d'œuvre, les œuvres majeures, c'est qu'elles sollicitent sans arrêt une interprétation nouvelle. Puisque même s'il y a des réussites, pour moi, c'est en particulier Henri Thomas, et c'est aussi Bonnefoy, mais qui n'est pas à proprement parler totalement dans la logique de la traduction. Je pense qu'il est plus dans une logique de réponse ou de rebond, de réaction, puisque il ne traduit pas tout dans les sonnets. Il choisit ce qu'il traduit et lui donne une force poétique, mais il ne traduit pas tout. Et moi, j'étais contraint, dans un recueil bilingue, d'être le plus littéral et le plus fidèle possible. Je ne peux pas, évidemment, en tout cas dans ce cadre, me donner la liberté de m'égarer ou de suivre des chemins buissonniers parallèles.
Est-ce que ça veut dire que vous avez déjà envie de les retraduire?
Non, pas à ce point-là. J'ai envie de retraduire certaines pièces de théâtre, parce que j'ai envie de les traduire de manière archaïsante, en tout cas de voir si on peut pas en donner une traduction plus proche du point de vue de la langue de l'époque de Shakespeare. Mais les sonnets, la voie est ouverte pour d'autres, et Dieu sait qu'il y en a certainement qui sont déjà à l'œuvre.
Sans doute.
Au moment où nous parlons.
Sans doute, Anne-Marie Miller-Blaise, qu'est-ce qui, pour vous, expliquerait l'ampleur de cet attrait? Parce que on peut vraiment parler d'ampleur.
L'attrait, c'est effectivement de se mesurer à un poète qui est devenu iconique, le poète d'entre tous. Il y a cette culture de l'imitation qui est présente chez Shakespeare, mais il pousse le jeu beaucoup plus loin que d'autres. Et je crois, en fait, qu'il y a aussi, s'il est tant apprécié à partir des romantiques et que c'est un des poètes de l'époque qui est le plus traduit, le plus imité, parce qu'il y en a d'autres. Est-ce qu'on traduit tous les jours Spencer? Non. Est-ce qu'on traduit tous les jours Sidney? Non. On les traduit occasionnellement. Mais c'est parce que, justement, Shakespeare a réussi à se libérer davantage des conventions avec lesquelles il joue. Et aussi, c'est quelque chose que j'ai tenté de suggérer dans cette édition hein, des sonnets, c'est qu'en fait, il dramatise à travers ces sonnets aussi le statut même du poète et le statut même de la poésie. Et il cherche son autonomie, parce qu'en fait, il écrit à une époque où on est très dépendant des systèmes de protecteurs. Et évidemment, l'objet amoureux auquel il s'adresse, c'est aussi son protecteur, en fait.
On n'a pas évoqué encore le W.H. Voilà. Enfin, les fameuses initiales auxquelles s'adressent ces sonnets.
Voilà, quel qu'il soit, quelle que soit son identité, c'est vrai que le poète n'a de cesse de revenir à cette idée que ses poèmes dérivent leur beauté de leur objet d'amour, qui se trouve aussi être le protecteur, et en même temps, il cherche à retourner les choses et à faire en sorte que ce soit son poème à lui qui garantisse une certaine éternité, et aussi que son poème puise sa propre nature, sa propre essence ailleurs que dans cette copie de cette copie de l'objet aimé. Et donc je pense que ça explique peut-être en partie parce que il est peut-être celui qui se détache le plus, enfin qui met en question cette économie là, si j'ose dire, de la poésie. Et je pense que pour notre conception aujourd'hui de ce qu'est un poète, ça c'est très important, l'idée d'une liberté absolue du poète face à la langue, qui n'a que la langue comme, enfin il n'y a que lui et sa langue en fait, et il n'est dépendant de personne d'autre. Je pense que ça explique aussi l'attrait de Shakespeare, parce qu'il y a cette force d'indépendance.
Est-ce qu'il n'y aurait pas aucun interdit dans la langue chez Shakespeare?
Alors, il n'y a aucun interdit dans la langue, oui, je pense qu'il n'y a aucun interdit dans la langue de Shakespeare. Il ne s'interdit rien, oui.
Mais n'oublions pas quand même que ces sonnets tiennent un discours amoureux, d'une force, d'une pertinence, d'une violence qui est tout à fait actuelle, d'une exigence, d'un absolu. En tout cas, le traducteur a besoin, disons, de cette illusion pour certains, mais en tout cas de ce sentiment qui traverse un vécu authentique, que ça corresponde ou non à des aventures biographiques précises du poète Shakespeare.
On a besoin de savoir tout ça pour traduire d'ailleurs.
L'envie de traduire, elle passe pour moi par l'authenticité de ce que je lis. Sympa, pas uniquement par leur beauté plastique ou leur beauté des sonorités du poème.
Par exemple, d'élucider le cas effectivement de ces fameuses initiales, donc de WH.
Ah non, ça, on n'a absolument pas besoin.
On n'a absolument pas besoin, parce que vous revenez un petit peu dessus. Mais
l'homme à qui ces poèmes sont destinés.
Vous parliez, on disait tout à l'heure, on évoquait le fait que les sonnets étaient présents dans le théâtre de Shakespeare. Vous voyez aussi, Jean-Michel Desprats, finalement de la théâtralité, pardon, dans les sonnets. Ça passe par quoi? C'est précisément ce que vous disiez là, justement.
Oui, il y a des éléments dramatiques, il y a une intrigue, il y a une histoire qui se raconte, il y a une théâtralisation des sons à l'intérieur de la facture poétique. Pour moi, les sonnets ne sont pas si loin que ça de la donnée dramatique, théâtrale. Sans parler du fait qu'il y a des formes lyriques qui sont incluses dans les pièces, très nombreuses. Si c'est pas des sonnets, c'est des octosyllabes, c'est des tétramètres très trochaïques dans Macbeth, pardon pour...
Je vous en prie.
Pour le terme. Mais de la poésie, il y en a dans le théâtre.
Qu'est-ce qui fait, alors peut-être quand même une question, alors sans être totalement technique, mais un petit peu quand même, qu'est-ce qui fait de la langue de Shakespeare, alors indépendamment de tout ce dont on a parlé là, c'est-à-dire toutes ces énigmes, ces métaphores, ces répétitions, ces doubles sens, ces troubles dans le genre, etc. Mais qu'est-ce qui fait de la langue elle-même une langue qui est si peu accueillante pour le français, ou réputée en tout cas si peu accueillante pour le français?
Je prends une pause parce que je suis pas tout à fait d'accord avec vous.
C'est pour ça que j'ai rectifié en disant réputée si peu accueillante. Voilà, de ce que j'ai pu en lire de
vous
la part de
si
quelques-uns
peu,
de vos
si peu
collègues.
Traduisible.
Ce qui résiste tellement dans la langue française à cet anglais-là, à l'anglais Elisabeth.
C'est les langues latines en général. Ben, disons que l'anglais, qui est une langue double, a une extension, une ampleur, ne serait-ce que sur le plan du lexique, que n'a pas le français, puisque l'anglais comporte du français, enfin, par l'anglo-normand. En 1066, les Normands débarquent en Angleterre, et à la cour d'Angleterre, on parle français à la fin du XVIIe siècle. Donc, il y a une étendue lexicale par rapport auquel, en effet, en français, on se sent un petit peu à l'étroit. Je sais que quand je traduisais les pièces, j'avais répertorié qu'il y a plus de 200 mots signifiant harlot, prostituée. Alors bon, même en faisant appel au Picard, comme le suggère Montaigne, on n'arrive jamais à un chiffre pareil. Donc, il y a le sentiment, en effet, d'être un petit peu à l'étroit dans le français.
Alors, quelle ruse faut-il déployer?
Ben, c'est pas une ruse, c'est le fait de se dire que la seule chose qu'on peut tenter de faire, c'est un poème en français dont les sonorités puissent éveiller l'imaginaire. Je dis pas à l'égal du poème anglais, mais en tout cas dans la même perspective. Et par parenthèse, je n'ai pas cité tout à l'heure quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration et qui m'a un petit peu ouvert la voie par rapport au choix que j'ai fait, c'est-à-dire l'alexandrin blanc, c'est Robert Elrod, qui n'est pas poète au sens de son état civil, qui était universitaire, mais qui donne une traduction extrêmement fouillée, précise et sans doute la plus fiable de toutes.
Cet alexandrin blanc que vous avez choisi, qui au fond est, alors je ne sais pas s'il faut dire une synthèse ou un compromis ou quelque chose un peu à mi-chemin en fait, hein, qui permet de ne pas abandonner complètement la structure et en même temps de ne pas dépendre trop justement de cette de la contrainte des rimes en particulier. C'est quelque chose qui s'est imposé très vite à vous. Est-ce que c'est un long processus?
Je suis parti de ça et j'ai, par rapport au travail d'Elrod, assoupli cette exigence en incluant des décasyllabes lorsque ça arrive très rarement, hein, mais le sens est rendu par 10 syllabes et qu'il n'y a pas besoin d'aller à 12. Mais en revanche, je me suis autorisé à inclure quelques vers de 14 syllabes dans la mesure où j'arrivais à produire un poème dont la rythmique soit forte, soit entraînante. Évidemment, ce serait une catastrophe si on se rendait compte, quand arrive le vers de 14 syllabes, que c'est un vers de 14. Mais ça me donne quand même un petit peu plus de souplesse que le simple alexandrin non rimé.
Est-ce que ça veut dire que, parce que on a bien compris que vous n'en étiez pas à votre première traduction, est-ce que ça veut dire que de traduire les sonnets de Shakespeare vous a demandé peut-être d'autres principes de traduction, en tout cas a fait bouger vos propres lignes?
Les a fait évoluer, mais grâce à l'influence de Anne-Marie, qui m'a appris l'existence de la césure épique. Alors la césure épique, ça donne une souplesse supplémentaire, c'est-à-dire que dans l'alexandrin classique, on doit compter les mystiches à 6 strictes. On ne peut le continuer que si le deuxième mystiche commence par une voyelle. Tandis qu'avec la césure épique, on peut très bien avoir des vers, si on les comptabilisait dans le système de l'alexandrin classique, qui sont hypermétriques.
Oui, c'est ça.
Qui sont hypermétriques.
Oui, parce que la grande difficulté de la traduction de l'anglais vers le français, c'est aussi que les mots sont très courts en anglais. Il y a beaucoup de monosyllabes, donc gagner des syllabes, c'est pas évident, effectivement.
Alors, il nous reste vraiment très très peu de temps, mais peut-être pour terminer sur une note moins technique, est-ce que je peux demander à l'un et à l'autre quel sonnet l'occupe ou le travail hein, en particulier? Est-ce qu'il y en a un qui dirait quelque chose de vous?
Le 30, pour moi.
Le lecteur s'y rapportera. Pour vous?
Pour moi, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que c'est, en fait, ils sont tellement divers dans les sensibilités et les modalités du sentiment amoureux qu'ils offrent qu'en fait, selon l'humeur du moment, on s'identifie à l'un ou à l'autre. Mais le 30 est très beau. Peut-être pas le. Aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être le 18, finalement, que je trouve banal parfois parce qu'on l'a tellement entendu. Mais voilà, il y a une belle journée de printemps et la période est un peu plus joyeuse.
Merci à tous les deux, Anne-Marie Miller-Blaise et Jean-Michel Desprats. C'est la fin de cette émission que vous pouvez réécouter et partager sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Aujourd'hui à la technique, Ludovic Auger, à la préparation Thierry Beauchamp et à la réalisation François Connac. Et on se retrouve vendredi prochain, même heure, même endroit. Il y sera question d'écriture et de dessin depuis Baudelaire cette fois. Bon après-midi à toutes et à tous.